We've seen the return of isolationist sentiments, forgetting that American security is directly threatened by the chaos. We've seen nationalism distorted into nativism. We've forgotten the dynamism that immigration has always brought to America. We see a fading confidence in the value of free markets and international trade, forgetting that conflict, instability, and poverty follow in the wake of protectionism.
Voilà une voix qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, depuis 2009, l'ancien président George W. Bush, qui a fait une sortie publique comme on n'en a pas vu beaucoup depuis qu'il a quitté la Maison-Blanche, Raphaël Jacob.
Surtout pas une sortie de cette sorte-là. C'est-à-dire qu'il s'est servi de la tribune qu'on lui a offert pour essentiellement, y aller en bloc contre ce qu'on pourrait appeler le Trumpisme. On parle de nationalisme, on parle d'isolationnisme, on parle de protectionnisme. Ce qui est remarquable là-dedans, Paul, c'est que plusieurs des thèmes que le président Bush a abordés aujourd'hui étaient identiques aux thèmes qu'il avait abordés lors de son discours d'adieu à la Maison-Blanche en 2009. Donc, des années avant l'arrivée sur scène de M. Trump, évidemment, comme candidat présidentiel. Pourquoi? Parce que déjà à ce moment-là, à la fin de la présidence Bush, évidemment, on avait eu l'énorme crash financier, la crise économique. On avait eu aussi plusieurs années, évidemment, qui avaient été marquées par des interventions militaires très longues, très difficiles à l'étranger, particulièrement en Irak, mais également en Afghanistan. Et on avait eu une série d'accords de libre-échange qui avaient été signés, notamment avec des pays de l'Amérique latine, qui étaient très controversés dans plusieurs régions des États-Unis. Et donc, il y avait déjà, à ce moment-là, un appétit pour justement un nouveau nationalisme, un nouveau protectionnisme, un nouveau sens d'isolationnisme, de moins intervenir dans le monde. Et c'est là-dessus que Donald Trump, évidemment, a tapé dès le tout début de sa campagne électorale il y a 2 ans. Et tu vois maintenant un président de son propre parti, un ancien président, le président Bush, qui sort pour dire, écoutez, ce n'est pas ce que nous sommes traditionnellement comme Américains, c'est certainement pas ce que nous sommes comme Républicains. Et ça t'illustre encore une fois que philosophiquement, il y a des déchirures absolument remarquables, oui, évidemment, au sein de la société américaine de façon générale, mais de façon encore plus précise, au sein même du Parti républicain.
Et la preuve de la distance qu'a prise avec le parti lui-même, le Parti républicain Donald Trump, c'est qu'il rencontre des sénateurs des deux partis au sujet de la réforme fiscale et qu'il se fait féliciter par un sénateur démocrate.
Ça a eu lieu aujourd'hui même. Donc, en même temps que l'ancien président républicain fustigeait, sans le nommer, mais c'était évident, le président républicain actuel, tu avais ce même président actuel, M. Trump, pour ne pas le nommer, qui se faisait encenser par un sénateur démocrate de l'Ohio, Sherrod Brown. Pourquoi? Parce que, selon le sénateur Brown, Donald Trump, contrairement au chef de file républicain du Congrès, tente, et là je le cite, de faire la bonne chose en termes de fiscalité, en termes de réforme fiscale. Pourquoi? Parce que Donald Trump étant un populiste davantage qu'un conservateur, son idée de réforme fiscale, c'est de taxer davantage les mieux nantis pour redonner à la classe moyenne et aux moins nantis, ce que plusieurs démocrates, incluant le sénateur Brown, adorent. Or, où ça bloque, c'est qu'au Congrès, les chefs de file, notamment le leader de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, sont complètement opposés à cette idée-là. Pourquoi? Parce que eux, étant beaucoup plus conservateurs traditionnels, veulent tout simplement abaisser les impôts de tout le monde, incluant et particulièrement ceux des plus nantis. Et ça donne une espèce de dynamique dans laquelle, où là, Donald Trump va tenter de faire passer sa réforme fiscale, oui, évidemment, avec les majorités que son parti a présentement dans les deux chambres du Congrès, mais aussi, potentiellement, en s'appuyant sur des démocrates qui, philosophiquement, à plusieurs égards, sont plus proches de lui. Donc, c'est ça aussi, c'est remarquable. Et quand on parle de Donald Trump, évidemment, on est très, très souvent tenté de parler des propos controversés, des sorties qui, d'un point de vue personnel, sont assez inhabituelles, on va le dire comme ça. Mais idéologiquement, philosophiquement, il vient sur plusieurs enjeux toucher une corde sensible auprès d'une masse critique d'électeurs américains.
Ouais, ouais.
Et ça, il ne faut jamais le perdre de vue.
Mais les Républicains ont dû verser une larme de nostalgie lorsqu'ils ont entendu George W. Bush.
Écoute,
je parle des purs et durs, là. Ils doivent se dire c'était le bon temps.
Absolument. Les vrais Républicains traditionnels, c'était un discours auquel ils sont habitués depuis non seulement des années, mais carrément des générations. Et oui, absolument. Tu as un sentiment de nostalgie pour ces gens-là, un petit peu comme tu vas en avoir un pour les démocrates. Ce soir, on s'en parlait, Barack Obama, qui, d'une minute à l'autre, doit prendre la parole en mode campagne électorale pour faire campagne pour le candidat gouverneur pour le poste de gouverneur de la Virginie. Donc, un ancien président qui prend la parole cet après-midi, un autre qui prend la parole ce soir.
Un dossier chaud à Washington et qui concerne la Maison-Blanche, très certainement, et le Pentagone aussi. C'est la mort des 4 soldats américains il y a quelques semaines à la frontière du Mali, mais en territoire du Niger. Ils sont tombés dans une embuscade. Il y a eu un échange de coups de feu avec des djihadistes pendant une demi-heure. Il a fallu l'intervention d'avions ou d'hélicoptères français pour venir à leur défense. 4 soldats sont tombés au combat. On n'a pas été capable de récupérer le corps de l'un des soldats pendant 48 heures, ce qui, évidemment, est un véritable scandale aux États-Unis. Norman Lester disait qu'il a peut-être été même capturé avant d'être tué. Alors, on se pose la question, est-ce qu'on aura des éclaircissements? John McCain a encore une fois profité de ce dossier pour dire qu'on n'avait pas les réponses en provenance de la Maison-Blanche.
Écoute, on parlait de tensions au sein du Parti républicain entre certains élus républicains et d'autres. En voici un autre bel exemple. Là, tu as une série d'élus républicains, incluant le sénateur McCain, qui fustige l'administration Trump pour ce qu'il considère être un manque de transparence dans ce dossier-là. Et ce qui est assez remarquable, Paul, c'est qu'on parle d'un dossier dont, en fait, personne ne parlait il y a à peine quelques jours, quelques heures. Et là, c'est sur les lèvres d'à peu près tout le monde à Washington. En bonne partie parce que, de un, il y avait un sacré paquet de gens qui n'avaient aucune idée qu'il y avait des troupes américaines au Niger. Encore moins de gens qui savaient qu'il y avait des troupes américaines qui étaient en danger de perdre leur vie. Et beaucoup, beaucoup de personnes qui se demandent justement qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, il y a des sénateurs, incluant des sénateurs républicains, notamment le sénateur McCain, qui sont en train de suggérer ouvertement qu'on n'aura peut-être pas le choix mais d'émettre des subpoenas pour forcer certains membres de l'administration Trump à venir témoigner. Dans toute cette espèce de brouhaha-là, tu as eu le secrétaire à la défense de M. Trump, Jim Mattis, qui est sorti en disant que le Pentagone était en train de faire enquête et qu'il voulait obtenir des réponses le plus rapidement possible. Parce que même, encore une fois, la personne qui dirige le département de la défense, le secrétaire de la défense lui-même, n'a pas l'air d'être tout à fait sûr qu'est-ce qui s'est passé puis comment ça a pu se produire. Parce que selon lui, c'était extrêmement improbable qu'un événement de la sorte survienne. Mais là, c'est important non seulement de faire la lumière pour comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour voir ce qui pourrait s'en venir en avant. Parce que là, on apprend que en plus des soldats qui sont tombés au combat qui étaient au Niger, t'as environ 1000 soldats américains, 1000, c'est quand même pas rien, qui sont dispersés dans la région saharienne en Afrique pour essayer de former, d'aider les gouvernements et les armées locales contre les djihadistes. Et donc, tu as eu un incident, il n'y a rien qui dit que tu ne pourrais pas en avoir d'autres. Donc, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions présentement auxquelles on a besoin d'avoir des réponses. Je te laisse sur une petite note. Dans toute la foulée de cet événement-là, évidemment, on s'en est parlé il y a 2 jours, toi et moi, le président Trump s'est mis les 2 pieds, encore une fois, dans une nouvelle controverse au sujet, évidemment, de l'appel qu'il aurait eu avec la veuve d'un des 4 soldats morts. Ça a fait beaucoup jaser. Tu as son chef de cabinet, John Kelly, qui, en plus d'être son chef de cabinet, est aussi un ancien militaire, qui a perdu lui-même un enfant au combat en Afghanistan il y a quelques années, en 2010. Et je te dirais qu'il a livré, on n'a pas l'extrait, mais j'essaierai de le faire sortir pour demain, c'est remarquable, un plaidoyer présent devant les membres de la presse à Washington, en direct de la Maison-Blanche, en disant « Personne ne peut comprendre c'est quoi, évidemment, de perdre un enfant, mais personne ne peut savoir c'est quoi d'être un parent de soldat américain. C'est un honneur, c'est quelque chose qui ne se comprend tout simplement pas quand on ne le vit pas. » C'était vibrant.
Il semble avoir donné son appui au président. Clairement. Qui n'aurait jamais dit ça fait partie du rôle d'un soldat que de s'engager. Ça...
Ou du moins, il ne l'aurait pas dit dans ce sens-là. Ce que John Kelly dit, c'est que ça a été complètement déformé, que lui-même, comme ancien militaire et parent d'un soldat, ça lui a brisé le cœur. Et ça peut être vrai, que ça a été politisé, mais dis-toi que ça a été politisé des deux côtés. Donc, c'est regrettable.
Non, mais ce que je veux dire, c'est si on place la même phrase et qu'on dit c'est parmi les risques d'un soldat qui s'engage à combattre pour la nation, c'est pas comme la même chose que si on dit tu fais partie des risques du métier. C'est
exactement.
Pas la même chose.
C'est pas du tout la même chose. Ce que l'élu démocrate, Mme Wilson, suggérait il y a quelques jours, c'est que Donald Trump aurait fait preuve d'une énorme insensibilité en
disant... Comme la deuxième version. Là.
Exactement. En disant tout simplement il savait dans quoi il s'embarquait, votre mari. Donc,
c'est ça.
Faut pas
j'en douterais. Mais alors, rien qui nous surprend avec Trump. Mais là.
Alors que dans l'autre version, la version qui est essentiellement suggérée par son chef de cabinet, M. Kelly, ce qu'il aurait voulu dire, c'est qu'il était à l'endroit où il voulait être avec ses compatriotes.
Voilà.
En s'enrôlant, c'est ce qu'il voulait faire. C'est pas du tout pareil. Donc, tu le dis, tu as raison. Les mêmes mots dits différemment, présentés différemment, peuvent avoir des significations complètement différentes.
Raphaël Jacob, merci et à demain.
À demain.